Day Trading, le podcast, se protéger des arnaques, première partie. Bien le bonjour, chers traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on couvre un sujet qui est très spécial, mais un sujet qui va nous permettre de nous protéger et de protéger notre argent. Dans le fond, quand on a choisi de se lancer dans le trading et de se lancer dans cette aventure-là, évidemment, on cherche à faire du profit, mais il faut toujours garder en tête qu'on doit apprendre à se protéger puis continuer à se protéger au fil du temps. On veut éviter de faire confiance aveuglément à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle offre incroyable qui se présente à nous. Puis dans l'époque où on vit, bien, des offres incroyables, il y en a une quantité astronomique. Toujours en compagnie de François, mon cher mentor. Comment ça va, François?
Ça va super bien. Puis un excellent sujet. Je le dis souvent, l'argent qu'on transige, l'argent qu'on gagne durement, c'est pas de l'argent de Monopoly. Donc, c'est de la vraie argent. Donc, l'argent qu'on a gagné durement, on veut qu'elle reste dans nos poches, puis pour les bonnes raisons.
Exactement. Donc, protéger son argent, c'est aussi agir de façon responsable. Puis ça me fait rire que tu parles de Monopoly parce que des fois, je fais des blagues à mes enfants. Dans le fond, des fois, je dis « Ah, je te gage 100 000 $ ». Puis là, mon fils me regarde avec des grands yeux. Puis là, ça finit par « Monopoly ». Ils partent à rire. Puis à un tel point, je fais des clins d'œil en même temps que quand ils étaient tout petits, je faisais cette blague-là. Puis eux autres, Monopoly, ils n'avaient jamais joué encore. Puis pour eux autres, ça voulait dire « clin d'œil ». Quand je disais Monopoly, ah, il faisait des clins d'œil. Fait que c'était un running gag chez nous. Mais effectivement, c'est pas de l'argent Monopoly qu'on a, c'est notre vrai argent gagné. Faut en prendre soin. Puis c'est triste, mais se faire arnaquer, ben ça fait partie de la vie. Hein? Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Ça nous est tous arrivé à un moment donné, au moins une fois dans notre vie. Que ce soit dans le trading ou dans d'autres sphères, là, c'est pas nécessairement dans le trading que je me suis fait avoir le plus. Mais dans tous les cas, parce qu'on va essayer de parler du trading, mais l'appât du gain est sournois et dangereux. Hein, c'est ça qui est un des très grands risques, c'est que des fois, l'appât du gain nous fait prendre des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre des risques qu'on n'aurait pas dû prendre non plus, puis des fois, on se fait avoir. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de parler de tout ça pour, dans le fond, partager avec vous là, des trucs pour se protéger. Puis avant d'aller plus loin, mais j'ai une anecdote. Moi, j'aime bien ça, les anecdotes. Puis dans le fond, un exemple d'une fois où je me suis fait avoir dans ma vie, mais c'était pas comme une arnaque, mais c'était comme un vol d'identité que j'ai vécu. Puis c'est un petit peu d'actualité aujourd'hui parce que dans le domaine financier, pour tous ceux qui sont chez Desjardins, vous savez que potentiellement, ils ont déjà toutes vos informations. Là. Donc, on est tous à risque, dans le fond, de se faire voler notre identité un jour ou l'autre. Puis c'est important de bien agir si ça arrive. Mais mon exemple à moi, c'est que j'ai 25 ans, je suis étudiant encore, musicien, donc pas beaucoup d'argent. Puis je me lève un matin, puis il y a comme un syndic, un huissier là, qui sonne à la porte. Puis là, je reçois une lettre. Et là, j'ouvre la lettre, puis c'est une banque qui m'envoie une poursuite de 60 000 $ dans le fond, je me souviens pas ce qui était écrit sur le papier, mais juste là, j'ai peut-être perdu la vue là, quand j'ai lu le papier pour me rendre compte que, dans le fond, quelqu'un avait volé mon identité. Il avait fait ça à deux autres personnes. Donc, on était trois personnes à s'être fait voler l'identité. Puis la personne, ce qu'elle faisait, on appelait ça du kiting, dans le fond. Ce qu'elle faisait, c'est qu'avec les trois comptes commerciaux, elle faisait des chèques pas de fonds. Et le chèque, le temps qui était déposé puis compensé, avant qu'il se rende compte qu'il n'y avait pas d'argent, bien, dans l'autre compte, il faisait un chèque avec l'autre entité, puis il roulait comme ça avec les trois comptes en faisant des chèques avec des montants différents. Là. Puis on parle de il y a plus de 20 ans, là. Donc aujourd'hui, ça a sûrement évolué là, les systèmes de détection de ces trucs-là. Et il a sa carte de débit, fait qu'il peut aller dans les guichets, il peut aller comme retirer de l'argent, puis là, il fait des chèques comme ça, puis les chèques deviennent de plus en plus gros, parce qu'il faut qu'il fournisse à son train de vie. Et à un moment donné, il y a un chèque qui rebondit. Puis quand ce chèque-là rebondit, bien, tous les autres chèques, on se rend compte qu'il n'y avait pas de fonds, donc ça revient tout en arrière. Puis là, les soldes, tous ces comptes-là deviennent dans le rouge. Et dans le compte qu'il avait utilisé à mon nom, bien, il y avait pour 60 000 $ il avait vécu avec ça, lui. Et dans le fond, quand la façon qu'on a approché, moi, je suis musicien, pas beaucoup d'argent, et dans le fond, 60 000 $ je capotais. Puis je dis, ah, je vais faire faillite. Mais non, on ne peut pas faire faillite quand on est quand on est accusé de fraude, parce que moi, ils m'accusaient de fraude, là. J'avais joué avec leur système. Et j'ai engagé une avocate, puis on s'est défendu, puis les trois, on est allé négocier avec la banque. Là, François, quand j'ai compté ça, il disait « négocier, ta minute, là, c'est toi, là, tu t'es fait avoir ». Mais oui, j'étais allé négocier, parce que mieux vaut une mauvaise entente que... un bon jugement, mettons. J'ai déjà entendu ça quelque part, fait qu'on a décidé d'appliquer ça. Fait que pour faire ça un petit peu plus court, là, on a fini par négocier. Moi, dans mon cas, au lieu du 60 000 je leur offrais 5 000 puis ils ont accepté. Puis ils ont accepté, puis ils m'ont expliqué qu'ils savaient l'individu. Là, il y avait même des photos guichet automatique de l'individu. On a parlé à la GRC aussi là-dessus, puis dans le fond, mais ils disaient on avait le droit de te poursuivre. Fait que là, on t'a poursuivi. Puis là, OK. Fait que, mais en négociant le 5 000, j'investissais dans mon avenir parce que ce qu'on a négocié, c'est qu'ils devaient retirer toute trace dans mon dossier de crédit de ça, là. Parce que quand une poursuite, ça apparaît dans ton dossier de crédit. Donc, ça aurait pu vraiment hypothéquer mon avenir négativement. Mais j'ai agi de façon proactive et orientée solution, avec des bons conseils, évidemment. Mais donc, à l'époque, ce qu'il a fallu que je fasse, vu que j'avais pas d'argent, j'étais allé me chercher 10 cartes de crédit. J'ai loadé mes cartes, j'ai payé mon avocate, j'ai payé 5 000. Puis au fil du temps, ben, j'ai fait de l'argent, puis j'ai remboursé tout ça, là, puis la vie... a pris son cours, mais quelle leçon de vie incroyable. Et qu'on le veuille ou non, qu'on le connaisse ou non la personne, ce que ça m'a appris, c'est dans le fond, tout le monde n'est pas gentil sur cette terre. Moi, j'ai toujours été à la base assez naïf, mais à partir de ce moment-là, ça a changé ma personnalité. Là, je suis devenu plus suspicieux, dans le fond. T'sais.
C'est quand même beaucoup d'argent, 60 000 $ là, 20 ans, là, c'est un professionnel, lui-là.
Oui, s'il fait ça avec 50 personnes, tu sais, parce qu'il fait ça à combien de personnes, tu sais, on sait
ben
pas.
C'est là, ça. Là, il s'est fait prendre avec trois, mais je veux dire, s'il n'y en a pas juste trois, j'imagine, il y en avait une dizaine, une vingtaine, une centaine
c'est,
peut-être.
C'est un gagne-pain. C'est une façon de gagner sa vie très non honorablement. C'est une façon de le nommer. Ouais.
Ça t'a coûté des milliers de dollars, mais c'est dommage, mais on s'entend que. Qu'en théorie, tu devrais plus te faire arnaquer. C'est peut-être le meilleur 5-10 000 $ que ça t'a coûté. Pour
c'est
15 000,
mais dans
leçon.
Le sens que c'est une leçon de vie, dans le sens que fais attention aux gens, n'importe qui. Mais là, dans ce cas-là, c'est un vol d'identité. Je ne connaissais pas le gars, mais mettons tu connais des gens, c'est qu'on peut se faire endormir. Puis des fois, elle n'a pas du gain, on veut croire, puis on peut donner des fois du contrôle à des gens ou notre argent. Puis là, dans le trading, ben, il y a ça aussi, là, tu sais, c'est qu'on peut mettre notre argent dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu sais, faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on traite le sujet aujourd'hui. Moi, c'est une seule anecdote, là, celle-là. Mais quand même, c'était toute une anecdote. Je vais en compter une autre qui est plus légère. Mais moi, je suis très fier de cette expérience-là. C'est mon fils qui a vécu ça quand il avait 5 ou 6 ans. Là. Et il était au terrain de jeu avec des cartes Pokémon. Fait qu'il a vécu, lui, il s'est fait vraiment arnaquer avec les Pokémon. Puis moi, j'ai utilisé ça comme leçon pour lui montrer, dans le fond, c'est quoi les arnaques. Fait que le petit gars, il a 5 ans, il s'en va au camp de jour avec 30 cartes Pokémon. Moi, personnellement, je vais vous avouer, ça m'énervait, là, les Pokémon. Je ne rimais pas là-dessus, mais il aimait ça. Puis, il revient le soir, puis il y avait juste une carte Pokémon entre les mains. Il n'y avait plus ces 30 cartes. Puis, une carte Pokémon, mais pas nécessairement la meilleure non plus, là, une petite carte de base. Là. Puis, là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu as juste une carte? Ben, je l'ai changée, là. C'est Félix au camp de jour. Il m'a expliqué, là, la carte, elle vaut vraiment hot. Puis là, j'ai donné toutes mes cartes en échange. Puis là, je me rends compte qu'il s'est vraiment fait avoir. Puis là, dans le fond, j'y explique. J'ai dit, tu t'es fait arnaquer, mon pauvre. Hey, arnaquer. Puis là, il savait pas c'était quoi. Puis là, dans le fond, comment s'expliquer c'est quoi se faire arnaquer. Puis là, quand il a réalisé dans ses yeux, là, les larmes ont monté. Puis ça a duré 2-3 heures de peine profonde. C'était pas tant les Pokémon que l'orgueil, l'ego, là. Tu sais, il a réalisé qu'il s'était fait avoir. Mais moi, après ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de ça, tu sais, pour le petit Félix, à l'époque, il doit être rendu plus grand, mais quand il arrivait des choses, puis tu vois qu'il se fait vendre des affaires par les amis, il dit, hey, souviens-toi de Félix. Ah oui, c'est vrai, Félix, c'était pas. Puis ce qu'on a fait, en fait, pour le consoler, c'est qu'on s'est servi, moi puis mon père, on s'est servi de ça, puis là, on lui a dit, ben, gars, on va te compter des exemples où on s'est fait avoir. Là. On t'a déjà fait avoir d'un 100$, des choses. Tu sais, des choses plus légères. J'ai pas parlé du gros cas de kiting, là. Mais il a appris ça. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'à 5 ans ou 6 ans, il sait c'est quoi ça, l'arnaque, puis il sait comment un peu la détecter. T'sais. Fait que je trouve que c'est une belle leçon de vie. Fait que c'est ça qu'on on veut partager avec vous, là, des leçons de vie pour éviter, dans le fond, de se faire arnaquer ou de se faire avoir, que ce soit pour un petit truc ou un plus gros truc.
Surtout dans le milieu financier, parce qu'on s'entend, n'importe quoi qui touche à la finance, c'est un milieu, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup, tu sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et puis quand il est question d'argent, les arnaques sont énormes. Fait que bref, côté financier, c'est là-dessus le podcast, on va surtout focusser, mais c'était bien de parler de nos exemples personnels.
Nos petits exemples.
Les cartes Pokémon, c'est cute, là, mais c'est... Le petit Félix, c'est peut-être le futur personne qui fait des chèques avec, comme tu as dit tantôt, le kiting.
Ouais,
le kiting, là, fait que faut les partir jeunes, c'est correct.
Exactement. Puis qu'on le veuille ou non, c'est plate, mais c'est une plaie, là, puis ça existe. Puis moi, je considère qu'il y a plus de possibilités de se faire avoir que de véritables opportunités si on regarde tout ce qui nous est sollicité, vendu partout. Là, c'est... Fait qu'il faut qu'on se protège, faut qu'on apprenne à mieux se protéger puis à être suspicieux, dans le fond. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir quelques arnaques, en fait, avec vous, puis qu'on retrouve dans le monde du trading pour essayer que vous soyez capable de les identifier ou de voir de quelle façon vous pourriez approcher la chose. Parce que même à travers quelque chose qui peut être de type arnaque, parce qu'il y a des micro-arnaques puis il y a des grosses arnaques. Tu sais, des fois, ils veulent juste notre 7 $ là, pour nous vendre un cours. Des fois, parce que 7 $ fois 100 000 achats, ça fait 700 000. Tu sais, ça en fait de l'argent. Là. Des fois, c'est plus important tout ça. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va couvrir ça. Le premier endroit où on peut se faire avoir, qu'on va couvrir, c'est les robots traders. Puis là, on fait attention. Il y en a des bons, il y en a que c'est bon, c'est intelligent de les utiliser, mais quand ils sont ultra performants puis pas chers en même temps, là, puis achète-les avant minuit, ils coûtent 29 $ au lieu de 700 $ mettons, avant minuit, sinon il est 700 $ Ça, c'est comme OK, là. Puis là, il va te faire des gains de 3000% par année. Pour moi, c'est trop facile. Tu t'en remets à quelque chose d'autre. Tu dis, je fais ça, c'est une machine, là, ça va rouler tout seul, puis et voilà. Ma retraite est garantie. C'est très clair que ça ne sera pas ça. Moi, je pense que si vous voulez un robot, ben, apprenez comment ça marche puis développez-en à partir de vos stratégies à vous autres.
Mais voyons, Patrick, t'aimerais pas ça faire 20 % par mois facile? Ça te coûte seulement 15,99 $. Allez, mon
ben
ami.
Oui, facile. 15 par mois. Parce que j'aime ta face.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Fait que, tu sais, mais toi, François, tu en as utilisé aussi des robots dans ta carrière, tu sais, mais t'es développé avec d'autres gens, puis c'est toi qui as établi, dans le fond, tes critères, ta stratégie là-dedans. Là. C'est pas quelque chose tout cuit dans le bec qu'un étranger va te livrer gracieusement. Là.
Non, et un peu comme on a parlé en début, hors onde, tu sais, les robots traders, il y a des avantages, il y a des désavantages là-dessus. Le désavantage, mais pas le désavantage, il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Mais l'avantage, c'est lorsqu'on développe notre propre stratégie. Tu parlais tantôt de transiger avant les nouvelles. Je faisais la même affaire au début de l'électronique. Les robots appliquait la stratégie que nous, personnellement, on a développée et puis manuellement, on l'ouvrait avant, exemple, une nouvelle de l'indice des prix à la consommation à 8h30 et puis le robot faisait notre stratégie. Donc, habituellement, un robot, ça transige beaucoup plus vite que nous. Là. Nous, des fois, c'est quelques secondes, mais le robot, c'est des millisecondes. Mais bref, un robot, moi, je dis souvent une machine à imprimer de l'argent qu'on s'achète à 29,99 par mois. Ça n'existe pas vraiment. Il y en a beaucoup, mais ça fait beaucoup, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, puis on m'approche souvent, regarde le robot, il fait 20% par mois. Là, je leur dis, oui, t'as transigé ça sur combien de temps, t'as backtesté sur combien de temps? Ah, ça fait seulement 3 mois, ça fait seulement 6 mois. Donc oui, c'est possible qu'un robot peut faire 20% par mois, mais ça va-tu perdurer dans le temps? J'en doute. Là. Si quelqu'un qui veut me montrer un robot profitable, viens me voir après un an, deux, trois ans de backtesting, on s'en parlera. Quand j'ai travaillé sur le paquet de la bourse, j'avais des amis qui connaissaient du monde, qui avait des hedge funds, et puis ça engage des actuaires, ça engage des mathématiciens qui sont payés 250 000 $ US par année pour développer des stratégies, puis ils sont une équipe de 50 chercheurs comme ça, puis ça travaille jour et nuit avec le chiffre de nuit, le chiffre de jour. Et puis, tout ça pour, à la fin, rapporter, les meilleurs hedge funds rapportent environ entre 20 et 30 % par année. Donc, on parle de 2-3 % par mois. Donc, quand vous voyez un robot qui vous dit, ben moi, je fais 10-20 % par mois, il faut que ça lève un drapeau rouge. Je dis pas que c'est pas bon, mais la majorité, c'est de l'arnaque ou ça n'a pas été bien fait comme backtesting ou il y a des spécifications qui correspondent pas à votre profil d'investisseur. Donc, comme on a dit tantôt, encore là, hors onde, ça coûte pas cher de l'essayer. On dépense un 15 ou un 20 $, c'est correct, mais signez pas un contrat d'un an avec eux autres. Donc, comme à la bourse, on dit, là, faites vos DD, faites vos due diligence, c'est la même affaire avec n'importe quel service de robot. Il faut s'informer avant, puis renseignez-vous. Donc, je te laisse
ouais, avant de mettre son argent aussi là-dessus, là, tu sais. Moi aussi, j'en ai acheté quelques-uns, j'en ai testé. Un homme aussi que j'utilisais avant les nouvelles économiques, il plaçait mon ordre, puis il la laissait toujours à 10 pips dans le Forex, à 10 pips du prix, jusqu'à temps que la nouvelle économique sortait. Et ça permettait que quand la nouvelle sortait, j'arrivais à être assez proche de cette nouvelle-là. Mais comme tu dis, on le mettait à on juste avant, puis tout de suite après, on le remettait à off, là, il ne servait plus à rien après ça, tu sais. Ou il y en a d'autres, des fois, que j'avais acheté, puis c'est bien beau, là, un coup que tu l'as, mais c'est quoi les spécifications que tu mets dedans, là? Parce que, tu sais, il y a un plat 4 cases à remplir, là, un coup que tu l'as acheté, là, puis là, t'es laissé avec toi-même. Tu dis que c'est le fun. Je ne sais pas quoi mettre dedans. Fait qu'il y a toutes sortes de choses, mais en même temps, ça peut être un cours, tu peux apprendre, mais rien ne vaut l'équivalent de dire je vais apprendre comment ça marche, je vais me trouver un développeur avec qui travailler, puis ensemble, on va développer notre stratégie, puis on va monter ça. Moi, je crois plus à ça que d'essayer de trouver dans le marché quelque chose qui roule tout seul. Parce qu'il peut marcher dans un marché en tendance, mais si le marché tombe sans tendance, là, sideway, il ne marche plus. Tu sais, il y a des différentes situations.
Pour faire une parenthèse, si on parle de robots, puis là, je pense à voix haute. Ceux qui connaissent ce TradingView, je crois qu'il y a des genres de robots d'intégrés. Donc, ceux qui utilisent la plateforme TradingView, exemple très simple, mettons, vous dites, moi, un titre qui se transige au-dessus de la moyenne mobile avec un RSI, un oscillateur qui est dans la zone survendue et qui recroise à la hausse, j'achète, mais je crois qu'avec TradingView, c'est possible de faire ça. Donc, c'est bien d'avoir un robot, quelque chose qui fait tout pour nous, mais c'est bien, comme Patrick dit, de le comprendre. Donc, Patrick pourrait peut-être confirmer, là, mais avec TradingView, lisez un peu là-dessus, puis c'est complètement gratuit.
Il appelle ça des stratégies. Il appelle ça des stratégies dans TradingView. C'est en code, okay. faut coder, là. Faut apprendre le langage de leur Pine Script qu'ils appellent.
C'est ça, les Pine Script.
C'est ça. Puis tu peux quand même avoir, ils vont te donner quand même une idée du résultat là, avec le passé. Là, ils vont te montrer un peu, souvent, ça s'en va vers le bas là, avec des plateaux. Etc. En tout cas, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Si vous trouvez la petite perle, tant mieux pour vous. Moi, je ne l'ai pas trouvée à date, pour moi, c'est ça. Ensuite de ça, le prochain endroit où on peut se faire avoir, dans le fond, c'est les fameux gourous. Là. Mais là, les gourous, tu sais, ce que moi j'appelle, parce que des bons formateurs, il y en a. Là. Il y en a des bonnes personnes, il y a des gens qui donnent des bons cours, mais il y a des charlatans formateurs, que j'appelle une trappe argent ou des marchands de rêve. Puis, c'est pas tous des vrais pros. Des fois, ils ont réussi à développer un peu leur connaissance, mais ils ont des forces de vendeurs à pression très, très habiles. Puis là, ils vont mettre ça en application pour nous vendre, dans le fond, plus leur formation que le véritable contenu. Puis ce qui est difficile, c'est que c'est difficile à les identifier du premier ordre tout de suite comme ça. Là. François, lui, avait quand même un critère de base là, qui donnait un indice.
Oui, c'est bien, puis c'est pas bien. Il y en a qui vont dire franchement, mais c'est dans le domaine surtout dans le domaine du Forex, c'est souvent de même. Les gourous qu'on les appelle, sont souvent dans la vingtaine. Donc, s'il y a du monde dans la vingtaine qui nous écoute, je ne dis pas que vous êtes un arnaqueur, là, mais souvent, dans le domaine du Forex, c'est début vingtaine. Donc, vous allez sur Instagram, début vingtaine, avec les taux de succès de 90 %, ça a 21 ans, ça se promène en véhicule de luxe. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est ça la beauté de la bourse. Tout est possible, mais on va là avec la normalité, ce n'est pas la norme. Donc, les gourous, surtout dans le domaine du Forex, il y en a beaucoup. Puis moi, le premier red flag, le premier drapeau, c'est quand je vois un jeune dans la vingtaine. Je dis pas que c'est tous des arnaqueurs, là, mais ça lève un red flag. Puis j'adore les statistiques, là. Moi, j'ai remarqué ça dans le domaine du Forex, là, dans la vingtaine, j'en connais pas beaucoup. Puis je dirais au-dessus de 90%, c'est de l'arnaque. Quand on prend des belles photos, par exemple, l'autre bord, ça reste encore chez leurs parents, dans un sous-sol peu éclairé, puis ça flash des rendements de 90%. Puis encore là, c'est correct. Il y a peut-être un taux de succès de 90% le mois passé, mais à la longue, je pense que c'est pas réalisable. Donc, je dis pas qu'il y a des bons puis il y a des mauvais gourous, mais moi, j'aime mieux les gourous à tête blanche. Ceux qui ont plus d'expérience, parce que où je veux en venir, c'est quelqu'un qui se dit gourou à 20 ans versus un gourou qui se dit à 50 ans. Le gourou de 20 ans, c'est dur à vérifier son historique. En théorie, on n'a pas le droit de transiger à partir de 18 ans seulement, on a le droit de transiger. Donc, il y a un historique de seulement 2 ans. Donc, encore là, je ne dis pas que c'est pas possible. Oui, c'est possible, mais les odds sont contre ces personnes-là. Tandis qu'un gourou à tête blanche, 50 ans, ça peut être un arnaqueur, lui aussi. Mais au moins, il y a du vécu. C'est facile d'aller faire des coups de téléphone. C'est facile de s'informer. Puis s'informer, c'est pas regarder son Instagram. C'est pas regarder des images qu'il projette. C'est vraiment de s'informer sur la personne, prendre le temps de le connaître. Tantôt, Patrick va en parler, mais Patrick, on travaille ensemble, mais au début, la première fois qu'il m'a vu, il dit « C'est qui ce gars-là? » Tu sais? Puis ça il a pris un an avant de m'apprivoiser. Fait que bref, il y a différents types de gourous. Encore là, comme à la bourse, il faut faire nos due diligence, il faut faire nos devoirs, il faut s'informer. Mais encore là, je veux revenir là-dessus, c'est pas parce que vous avez 20 ans que vous êtes un arnaqueur. C'est juste que les odds sont contre vous. Donc, bien s'informer sur les gourous qu'on veut suivre.
Puis les gourous, en fait, ou les formateurs ou les mentors, tu sais, on peut les appeler comme on veut, là, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est l'expérience. Tu l'as dit, la tête grise ou la tête blanche. Parce que l'expérience, c'est quoi? C'est que la personne a vécu plusieurs réalités de marché. Tu sais. Sur 2 ans, tu ne peux pas dire que tu as vécu plein d'affaires. Là. Tu sais, quand tu as vécu, mettons, des situations où il y a eu des crashs, où il y a eu toutes sortes de situations qui t'ont fait sortir de tes stratégies, que tu as été comme confronté même à toi-même. La personne, elle a une sagesse. Puis moi, c'est ça que je recherche, c'est d'avoir accès à cette sagesse-là. C'est pas d'avoir accès à simplement une stratégie qui donne l'impression de fonctionner, mais pour combien de temps? T'sais? Puis le moment où elle ne fonctionne plus, est-ce que je leur donne tout au marché encore plus? Il y a ça aussi, c'est d'être prudent. Fait que moi, c'est ça que je trouve important. Donc, s'assurer de l'expérience puis de la réputation aussi. Est-ce que cette personne-là a joui d'une belle réputation. Puis ça, même malgré ça, là, on peut se faire avoir quand même. On va en parler plus tard des cas où les personnes avec des réputations extrêmement fortes qui ont quand même réussi à avoir, surtout pour ramasser l'argent du monde là, pour faire du placement. Là, on va se regarder pour plus tard, je pense même pour le prochain épisode, parce que le temps passe quand même assez rapidement. Donc, les gourous, tu sais, oui, puis François l'a dit, ça m'a pris un an à ce qu'il... à ce que je fasse confiance. C'est qu'en partant, moi, je suis très suspicieux. Donc, quand je rencontre quelqu'un dans le domaine qui veut enseigner, prouve-moi que tu es honnête.
T'avais ton petit Félix en dedans de toi qui disait « lui, fais attention. »
Je me rappelais de Félix.
Oui, c'est ça.
Exactement. T'sais, prouve-moi l'inverse. Prouve-moi, moi, je pars, puis tu pars pas à neutre. Tu pars dans le rouge, tu sais. Puis prouve-moi l'inverse. Puis au fil du temps, par certaines actions que j'ai, mettons dans l'exemple de François, tu sais, quand j'ai vu certaines choses qu'il a faites ou dans sa façon de présenter, tu sais, à chaque 2 semaines, il va nous donner un recap de ce qu'il a fait, tu sais, puis tu sais, j'ai validé là, des recaps, OK, il a annoncé, c'est vrai, t'es là, la trade, tu sais, donc d'espèce de valider ce qu'on nous donne comme info. Et d'essayer d'identifier les doubles discours, les non-sens. Là. Des fois, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est à travers ça qu'on va y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir, mais il faut y aller doucement. T'sais. Ou des fois, des gourous, tu t'invites un week-end de formation, mais que la formation commence à 8 heures le matin, puis elle finit à minuit le soir, puis tu as 3 jours de même. Puis là, à la fin du 3e jour, tu as un cours d'une valeur de 100 000, mais devant ça, 20 000 $ juste pour les 8 premiers. Moi, j'ai vu ça, là, puis on est dans une salle. Là, puis là, les 8 premiers, là, ils vont avoir ça à 20 000 au lieu de 100 000. Puis là, tu en as 50 qui partent en courant en arrière de la salle pour aller s'inscrire. Mais tu apprends que, dans le fond, les 10 premiers qui se sont levés en courant, c'était du monde qui était là juste pour se lever en courant pour que les autres se lèvent aussi en courant pour aller s'inscrire, tu sais, pour montrer que, hey, je veux une place. Puis, fait tu sais, il y en a, ça existe. Donc, soyons prudents, OK? C'est des méthodes de marketing.
Tantôt, hors onde, tu me diras c'est qui. Moi, j'aimerais ça assister à ça. Ça doit être un bon show de comédie. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, là, mais hey, j'aimerais ça assister à ça. Ça doit être drôle.
Mais c'est bien, mais on fait attention de ne pas nommer de nom, effectivement.
Non.
Parce qu'on veut pas, on cherche pas le trouble non plus. Mais je te dirai, François, ça va me faire plaisir. Okay. Je ne sais pas non plus s'il en donne encore, là, mais c'était fascinant là, de voir ça. Ensuite de tout ça, dans le fond, on va en couvrir un dernier pour aujourd'hui parce que effectivement, le temps file. Ça serait les courtiers. Là, les courtiers, je veux être quand même être clair, c'est pas tous les courtiers, c'est pas chaque courtier, mais ça existe des courtiers mal intentionnés ou des faux courtiers. Et il y a différentes approches là-dedans. T'sais, c'est sûr que si vous restez dans les grands courtiers ou les grandes banques canadiennes régulées, c'est très peu probable. Mais c'est déjà arrivé pareil qu'il y a eu on a vu des poursuites là, contre certains courtiers régulés pour. J'ai pas de détails à donner, là, mais on a déjà vu ça, là, sans en nommer. Mais un exemple, mettons, de courtiers qui vont. Une méthode qu'ils vont utiliser, c'est qu'il y en a qui vont avoir deux livres. Ils vont avoir le livre A et le livre B, bien, le B-book en anglais. Le B-book, quand on est dans le livre B, en fait, c'est qu'ils vont classer leurs traders, leurs clients, dans deux livres. Le livre B, c'est des traders qui ne sont pas profitables. Ça, on sait que c'est la majorité des traders. Donc, un courtier qui décide d'avoir plein de clients non profitables, il y a une façon d'en profiter. Fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, supposons qu'on va passer l'ordre dans la plateforme, puis dans le fond, le courtier, lui, il ne passe pas l'ordre à la bourse. Il la garde dans son livre à lui. Puis lui, il va prendre l'ordre inverse à la bourse avec son argent. L'inverse de toi, parce qu'il sait qu'à 90 % tu vas avoir une perte. Fait qu'il met les chances de son côté en faisant l'inverse de ce que tu dis. Puis, dans le fond, il encaisse là-dessus. Fait que, ou puis toi, quand tu as une perte, ben, si tu as mis ton argent, ben, il peut garder l'argent aussi. Là. En même temps, c'est de la perte. T'sais. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour où tu deviens profitable, là, tu te ramasses dans le livre A, le courtier, ben, il te floche. Il ne veut plus faire affaire avec toi. Où il va te montrer des frais, où il va changer conditions, où ça devient plus compliqué. Donc ça existe. Moi, je ne l'ai jamais vécu. J'ai jamais senti que j'étais dans le B-book ou le A-book parce que j'étais dans mon courtier régulier hein, que j'ai vraiment fait une vérification diligente avant. Mais ça existe.
Oui, justement, là, présentement, on est en 2021, ceux qui vont réécouter plus tard, mais bref, en 2021, il y a beaucoup de membres, ben pas beaucoup, il y a quelques membres de la communauté des trading, puis c'est drôle que tu parles de ça, ça vient d'allumer, ils font affaire avec un courtier, et puis encore là, sans le nommer, et puis ces personnes-là payaient un frais fixe, je crois que c'était 5$ par transaction, puis ils transigeaient beaucoup sur les marchés OTC. Et puis, il faisait beaucoup de transactions, puis c'était quand même des négociateurs profitables, je crois. Et puis, il y en avait une dizaine qui transigeaient quand même des assez grosses quantités. Et puis, du jour au lendemain, le market maker de cette compagnie-là, je crois, a protesté. Et puis, parce qu'il faisait beaucoup d'argent. Et puis, il trouvait ça ridicule qu'il paye seulement 5$ par transaction. Et puis, du jour au lendemain, ils ont augmenté les frais de tous ces négociateurs-là. Pas de tout le monde, de seulement ces négociateurs-là. Fait que c'est un peu, c'est du concret, là. C'est arrivé, je dirais, il y a quelques mois à plusieurs membres de la communauté qui faisaient de l'argent chez ce courtier-là. Et puis le market maker a comme pas aimé ça et puis ils ont décidé d'augmenter les frais. C'est une belle façon de, on te met pas dehors, mais on augmente tes frais. On les double, on les triple fois 10, je me souviens plus c'était combien, ou on augmente d'autres types de frais. C'est une belle façon de dire au client, ben c'est ça. Dans un sens, votant ou...
Il va s'en aller tout seul. Fait que
c'est ça.
Pas besoin de le mettre dehors.
C'est ça. Mais c'est ça. C'est parce que je t'entends parler de ça, puis ça vient de me flasher. C'est exactement ça.
Ça existe. C'est ça.
Oui.
Faut pas être naïf. Tout le monde n'est pas gentil.
Non.
Après ça, il y a une autre affaire qu'ils peuvent faire, tu sais, parce que le courtier, dans le fond, les market makers, eux autres sont importants. Pareil, les market makers, c'est eux autres qui vont... nous donner de la liquidité là, quand on veut vendre ou acheter pour être capable d'aller chercher. Mais ceux qui sont mal intentionnés, ils peuvent jouer avec ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Puis là, il y a des moments stratégiques où des fois, ce spread-là, il s'élargit là, parce que, dans le fond, il y a plus de volatilité dans le marché, il y a des nouvelles économiques, tout ça. Mais il y a certains courtiers que le spread, il va bouger vraiment plus ou à 5 heures, là, pas loin avant de la fermeture. Tu sais, le spread va monter dans le Forex, excusez-moi. Et dans le fond, des fois, le spread, il vient vraiment gros. Fait que, tu sais, si un courtier, lui, il va avoir un spread de 5 points ou 5 pips, puis l'autre, il y en a comme 20, pourquoi lui, il y en a 20, puis l'autre, il y en a 5, tu sais, parce qu'automatiquement, en ouvrant le spread, il va nous sortir, là, il va chercher nos stops, il y a quelque chose qui se passe, puis là, on encaisse une perte dans ce temps-là. Fait qu'il y a des situations aussi, des fois, moi, c'est là-dessus, je me questionne, tu sais, je suis en réflexion, je regarde ça aller, mais encore là, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus, là. C'est vraiment le courtier qui contrôle ça. Puis les courtiers, ben là, c'est moins présent, là. Mais tu sais, par téléphone, là, le fameux loup de Wall Street, là, les méthodes, dans le fond, d'appeler les gens. Aujourd'hui, c'est plus nécessairement par téléphone, mais ça peut être par email, là, ça peut être par les réseaux sociaux. Ils vont essayer d'aller chercher des investisseurs, dans le fond. Ça aussi, il faut faire attention.
Dans le temps, on appelait ça les pink sheets.
Les pink sheets.
Réécouter le film Le loup de Wall Street, là, c'est des. C'est ça, on essayait de vendre des actions. Ben, moi, je n'ai pas vécu ça, là. C'était plus dans les années 80, là, je crois. Là. J'ai pas
oui,
vécu
toi,
ça.
Toi, tu n'étais pas un vendeur. Là. Toi, tu tradais ton argent. C'est pas pareil non plus.
Eux, non, c'est pas, ça. C'est ça. Maintenant, les nouveaux loups de Wall Street, ça doit se faire par téléphone encore. Ça doit être plus rare. Là. Mais sinon, moi, je pense, c'est via courriel. Hein, combien d'opportunités d'affaires, combien d'opportunités ouais. De trucs payants qu'on peut avoir. Allez regarder dans vos courriels, le spam, junk, ouais. Vous allez en voir.
Nouveaux crypto, nouveaux produits, nouveaux oui. Tels métaux, il y en a énormément. Là, donc, on n'a même pas le temps de toutes les lire en plus. Fait que, mais faut faire attention. Alors, pour cet épisode-là, ça fait déjà 30 minutes. On va arrêter ça là parce qu'on veut être discipliné. On va avoir un deuxième épisode pour le prochain. Où on va poursuivre. Alors, on espère que, tu sais, là, on s'est trempé l'orteil. On espère que là, on sonne des cloches puis que vous allez comme réfléchir à ça puis essayer de voir si dans vos comportements, vous avez tendance à faire confiance trop rapidement ou si vous faites vos devoirs puis vos vérifications.
C'est ça. Moi, je vais résumer, là. C'est exactement quand vous êtes négociateur à la bourse, faites vos devoirs avant d'acheter un titre. Assurez-vous de savoir « you » votre stop-loss, « you » votre target. Vous faites vos devoirs. Donc, que vous achetez un titre, que vous achetez une formation de quelqu'un ou que vous voulez faire confiance à quelqu'un, faites vos devoirs. Regardez l'historique du titre, regardez l'historique de la personne. Informez-vous. Pour faire une analogie, quand avec le marché des actions, on regarde les fondamentaux, on regarde les états financiers. Quand c'est la même affaire, quand vous voulez faire affaire avec un service, un produit, informez-vous sur les personnes, c'est qui les offre, regardez l'historique. Donc, on va en reparler plus profondément au prochain podcast.
Au prochain podcast. Puis, tu sais, dans le fond, oui, on a un sens d'urgence quand on fait du trading parce que l'opportunité n'est pas là pour tout le temps, mais il faut apprendre à être patient malgré ça. Faire ses devoirs, ça veut dire faire preuve de patience. Alors, on vous souhaite un bon trading, puis on poursuit dans le prochain épisode encore avec d'autres façons de se protéger des arnaques. Bon trading à tous. We'll be right back.